Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous, vous êtes à l'apérophonie à Radio Campus 90.8 Grenoble. Aujourd'hui, on va parler des chants d'oiseaux et de leur relation à la musique. J'ai l'honneur d'être accompagnée de l'ornithologue Jacques Prévost. Est-ce que vous voulez vous présenter ?
Bonsoir à tous, je m'appelle Jacques Prévost, je suis plutôt jeune, j'ai roulé ma bosse en France et dans le monde entier à l'écoute des oiseaux depuis bientôt 50 ans. Donc ça vous donne une petite idée sur mon âge. Sinon, je suis membre de l'ALPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, depuis de nombreuses années. Donc association dans laquelle je milite et je propose notamment des formations qui sont centrées sur les oiseaux et particulièrement sur les chants. Voilà pour une petite présentation rapide du bonhomme.
Eh bien, ça tombe bien parce que ce soir, on va se poser une question. C'est est-ce que les oiseaux sont musiciens ? En effet, souvent, pour parler de quelque chose de musical, on peut utiliser, par exemple, pour décrire la musicalité dans le dictionnaire, c'est dit que ça ressemble à la musique, et il utilise l'exemple du chant du rossignol. Du coup, est-ce que vous pourriez me donner des exemples de termes musicaux qui sont employés quand on décrit les chants d'oiseaux ?
Alors, effectivement, on a souvent comparé les oiseaux, notamment le rossignol, hein, bien sûr. Quand on parle du rossignol, dans le grand public, on a tout de suite l'idée d'un oiseau particulièrement musicien. Et c'est une réalité. Hein. En plus, ce petit oiseau a la particularité de chanter également la nuit. Donc, effectivement, ça donne tout de suite une lumière particulière à sa production vocale. Hein. Et donc, effectivement, on a des oiseaux, des catégories d'oiseaux qui sont plus chanteurs que d'autres. Hein. Alors, on a deux grandes familles, on pourrait dire, chez les oiseaux. Les oiseaux qu'on appelle les oiseaux chanteurs proprement dit. Et puis d'autres espèces qui ont des chants qui sont, ou en tout cas des productions vocales, qui sont beaucoup plus archaïques, beaucoup plus rustiques, moins mélodieuses. Donc on a fait des catégories comme ça, en classant effectivement ceux qui chantaient plutôt bien et ceux qui chantaient plutôt moins bien. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que ces catégories sont plutôt des oiseaux qui chantent avec une partie innée, c'est-à-dire qu'ils naissent avec une compétence, leur chant. Et puis il y en a d'autres qui naissent avec une compétence, effectivement, leur chant, mais en plus, et ils apprennent de la part des adultes. Donc ça fait que, si vous voulez, dans ces deux catégories, vous en avez une catégorie qui a un chant plutôt assez archaïque, hein, qui va jamais évoluer dans le temps, hein, alors que d'autres ont cette capacité d'apprendre. On a l'exemple, par exemple, fameux du canari qui va chanter au printemps une chanson, un chant particulier. L'hiver va passer, il va oublier son chant, et le printemps suivant, il va de nouveau chanter, mais cette fois-ci, il va chanter avec un nouveau chant, un chant différent du premier. Un hiver va passer, il va de nouveau oublier son chant, et le troisième hiver, il chantera encore avec un chant différent. Donc, on voit bien que là, ici, qu'il y a un apprentissage, on peut parler d'improvisation, on peut parler d'imitation, on peut employer beaucoup de mots, hein, mais on a affaire là à un oiseau qui, effectivement, est capable d'apprendre, hein, et est capable de produire quelque chose de nouveau d'une manière assez régulière. Alors, je reviens au rossignol. Le rossignol, on a affaire ici à une espèce effectivement assez emblématique par rapport à son chant. Tout le monde connaît le rossignol. Il y a des contes qui ont été écrits, bien sûr, sur le rossignol, des tentatives de l'imiter sur le plan musical. Mais le rossignol, qui est un oiseau de chez nous, hein, à partir de la mi-avril, on peut l'entendre sur le campus, sans doute ici. Mais il a des concurrents au niveau de la compétences musicales au niveau de la mélodie. On pourrait citer par exemple un oiseau qui s'appelle la rousserolle verderolle. La rousserolle verderolle, c'est un oiseau qui est migrateur et qui va revenir au printemps chez nous, au mois de mai à peu près, et il a passé l'hiver en Afrique. Et c'est un vrai petit magnétophone avec des ailes. C'est-à-dire qu'il revient avec les chants qu'il a entendus pendant son séjour en Afrique, et il a emmagasiné tous ces chants, il les a enregistrés, et il va les reproduire. Et il nous fait un pot-pourri absolument extraordinaire de chants qui sont composés de ses propres productions à lui, ce petit oiseau, mais enrichis de toutes sortes d'imitations qui sont des imitations de mésanges, des imitations de moineaux, des imitations de merles, et d'imitation, donc, comme je le disais, d'oiseaux qu'il a écouté donc, dans son séjour en Afrique. Voilà. Là, il s'agit d'un oiseau que j'ai enregistré dans la région, hein, près dans la vallée de l'Isère. Et je peux faire 200, 300 mètres, 500 mètres, et puis aller enregistrer une autre rousserolle verderolle qui va se trouver donc voisine de celle-ci. Hein, et on va avoir un chant totalement différent, mais composé, là encore, d'imitations, de son chant propre, d'imitations qui s'intègrent là-dedans et qui forment vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà.
Et dans ce chant, est-ce qu'il y aurait des parties qui seraient plus ou moins musicales dans ce chant, dans les productions sonores de cet oiseau?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle effectivement musical, mais c'est vrai que quand on écoute l'oiseau en question, on s'aperçoit qu'il est composé d'un certain nombre de motifs, on appelle ça des motifs, hein, c'est-à-dire des ensembles de notes, hein. Et ces motifs sont tous différents. Donc il y a des motifs qui sont, on va dire, qui sont plus mélodiques que d'autres, hein, qui sont formés de jolis sifflets, de sifflets flûtés, si vous voulez. Puis il y a d'autres parties qui sont des parties où l'oiseau émet des sons grinçants, des sons qui vont être éraillés, que notre oreille humaine trouvera moins musicale. Hein. Donc, effectivement, on peut aller chercher dans le chant de cette rousserolle verderolle, on peut aller chercher effectivement des parties qui sont à notre oreille, bien sûr, humaine, à notre oreille humaine, qui nous semblent plus mélodiques. Mais son discours s'adresse pas aux hommes. Son discours de cette petite rousserolle, il s'adresse à d'autres rousserolles. Et comme ce discours s'adresse à d'autres rousserolles, la rousserolle qui écoute, effectivement, le trouve mélodieux ou non, ça, on ne peut pas le dire, on ne le saura jamais, mais en tout cas, ça a du sens pour elle. Hein. Alors, voilà par rapport à la question que vous me posiez, mais ça pourrait être intéressant peut-être de discuter effectivement, du sens que l'oiseau donne à sa production, quelle est la fonction de ce chant, hein, pourquoi l'oiseau chante, hein, voilà, on peut se poser cette question-là. Bah, il chante sans doute pour plusieurs raisons. Alors, est-ce qu'il chante pour son plaisir? Alors, je ne vais pas répondre à leur place, je ne sais pas. Hein. On dit souvent « gai comme un pinson », parce que le pinson, effectivement, a un chant qu'on peut écouter d'ailleurs. Le pinson, il a un chant bien connu, puisque c'est un oiseau très commun dans nos forêts, dans nos villages, dans nos parcs, dans les jardins même. Donc, c'est un oiseau qui a un chant assez connu, qu'on pourrait d'ailleurs... Il y a un petit truc pour leur tenir, on dit « Tiens, 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 voilà Félicien qui vient hein, !» Voilà. Alors, on peut l'écouter, là, peut-être, si... Voilà, donc là, on vient d'écouter le pinson des arbres, espèce très commune par chez nous. J'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais j'étais parti sur la fonction du chant. Hein. Donc, je disais, oui, on disait « gai comme un pinson », effectivement. Est-ce que l'oiseau chante pour son plaisir? Alors, on peut se poser des questions, parce que notre ami pinson, là, qu'on entend chanter, il chante à peu près... toutes les 10 secondes à peu près, il lance sa petite ritournelle là, et il chante toute la journée, hein, et il chante toute la saison. Hein. Est-ce que vraiment il chante pour son plaisir? C'est difficile à dire. Non, il y a des choses qu'on peut dire sur les fonctions du chant. D'abord, le chant est souvent, pas toujours, mais souvent émis par le mâle. Alors le mâle, quand il chante, il cherche à faire le beau, hein, il cherche à séduire une femelle. Bon, ça c'est une chose, c'est une première chose. Alors on raconte beaucoup de choses, à la fois scientifiques ou non, mais des choses scientifiques aussi, sur le fait que les femelles choisiraient plutôt un bon chanteur, sachant que si c'est un bon chanteur, ça veut dire qu'il est en bonne santé, et s'il est en bonne santé, il va faire, avec la femelle, ils vont faire des petits qui seront eux aussi en bonne santé, enfin bref, voilà. Donc souvent, les travaux qui ont été faits sur les oiseaux chanteurs, en tout cas, montrent qu'effectivement, souvent, les femelles choisissent des bons chanteurs. Donc, l'oiseau donc, chante pour séduire une femelle. Ça, c'est la première fonction. Il y a une autre fonction qui est la fonction de territorialité. Les oiseaux s'installent au printemps. Souvent, les mâles arrivent les premiers sur les sites de nidification et donc ils vont montrer qu'ils sont maîtres chez eux en chantant. Ils ont des postes de chant, ils chantent et donc ils marquent leur territoire par cette production vocale. Puis à 200 mètres ou 300 mètres, il y a un autre pinson qui chantera lui aussi, qui marquera son territoire. Donc tout le monde s'installe et voilà. Donc l'oiseau marque son territoire dans cette fonction. Donc c'est les deux fonctions principales. Après, effectivement, il y a aussi d'autres fonctions dans le chant qui peuvent être la fonction d'apprentissage pour les jeunes, par exemple, puisque chez les oiseaux chanteurs, les petits, effectivement, écoutent les adultes hein, et profitent du chant des adultes pour chanter à leur tour. Voilà, donc on a ces trois fonctions qui sont principales chez les oiseaux.
Donc c'est vrai que la musicalité, la musique est associée souvent à l'idée d'une production, d'un processus créatif dans la musique notamment occidentale. Et donc il y a cette question qui revient, est-ce que les oiseaux produiraient du coup des sons pour l'esthétique? Et il y a un ornithologue qui s'appelle Morency qui écrivait un petit texte qui est assez lyrique qui essayait de dire que les oiseaux pourraient eux aussi émettre des productions sonores juste pour le simple plaisir de faire quelque chose d'esthétique. Il disait « Pourquoi les oiseaux ne chanteraient pas tout simplement? Parce que les étoiles naissent dans le brasier des galaxies. parce que les constellations sont des troupeaux de guides, parce que chaque matin est le début du monde, parce que les feuillages, les vagues, les torrents sont musique, parce que les champs ondulent et que les arbres respirent, parce que la lumière fait chanter ce qui vole, ce qui est léger, ce qui déborde dans le vent. Donc il a écrit ça en 1992 et c'est des termes qui ont été repris par Monsieur Ouellet. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Il parle notamment des chants d'aurore. C'est des chants qui seraient produits donc, à l'aurore et dont les bioacousticiens ou certains ornithologues n'arrivent pas à attribuer une fonction précise. Et qu'en pensez-vous ? Enfin, voilà.
Alors, bon, je ne connaissais pas ce texte hein, qui est très beau, effectivement. C'est vrai que je vais être plus prosaïque. Hein. J'ai toujours plaisir à lire des textes qui vantent la musicalité de l'oiseau, qui en parlent avec beaucoup de poésie. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur de parcourir la campagne, la forêt ou un autre milieu dans les prémices du jour, hein, quand la lumière commence à arriver tout doucement à l'horizon et que effectivement le milieu naturel se réveille parce que effectivement il y a ces chants d'aurore, hein, ces fameux chants qui sont les chants du début de la journée. Alors est-ce qu'ils ont une autre signification que les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure? Je ne saurais dire. Ce qu'on peut dire souvent aussi, c'est que les oiseaux viennent de passer la nuit. Souvent, sans doute, peut-être dans l'inquiétude. La nuit est toujours un moment difficile pour les oiseaux, pour les animaux en général, surtout quand ce n'est pas des animaux principalement nocturnes. Donc, ils peuvent effectivement, à ce moment-là, au moment où le jour pointe, avoir une sorte de libération, on dirait, une libération qui leur donne cet élan, cet élan vital qui se traduit par le chant, retour à la vie, hein. La nuit étant le moment où effectivement la nuit c'est la zone de tous les risques, hein, avec des prédateurs qui sont là, qui sont prêts à croquer toute petite bête existante. Donc la lumière arrive et l'oiseau exprime, alors entre guillemets, sa joie. Voilà, donc on peut dire ça, mais je ne suis pas dans la place d'un oiseau, je ne sais pas si c'est mon interprétation d'homme, mais on pourra dire ça. Mais j'en reste quand même pour l'instant à ces données qui sont plus terre-à-terre, plus scientifiques, et qui décrivent la fonction du chant d'oiseau.
Oui, l'interprétation de ce que nous disent les chants d'oiseaux est toujours sujette à diverses hypothèses, et chaque culture peut l'interpréter différemment. J'ai été par exemple en Colombie et j'ai rencontré une personne qui me disait bah non, moi les chants d'oiseaux le matin à l'aurore c'est des esprits qui parlent et qui célèbrent la vie et c'est des prières en fait qu'on entend. Donc il y a aussi par exemple l'anthropologue Stephen Feld qui est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée rencontrer les Kaluli, qui sont un peuple qui vivent au sein de la forêt et qui entendent le chant des oiseaux comme si c'était des voix d'enfants abandonnés. Donc c'est lié à un certain mythe où un enfant aurait été abandonné dans la forêt et se serait transformé en oiseau. Et donc à chaque fois qu'ils entendent des oiseaux, ils l'interprètent comme étant des échos, d'esprits, d'âmes errantes, et ça les rend très tristes. Et ensuite, ils imitent ces chants d'oiseaux dans leur musique pour célébrer cette incarnation, en fait, des oiseaux. Donc là, on s'éloigne un peu de la musicalité, mais c'est plus qu'est-ce que l'homme peut réussir à tirer de ces chants.
C'est vrai que dans la culture occidentale, c'est vrai qu'on a, on est souvent dans une perspective d'explication. Hein. Donc on va aller chercher du côté scientifique. On va essayer de théoriser la vie, le comportement des animaux. On va essayer de trouver des explications scientifiques, des choses qui à nos yeux tiennent debout, parce qu'on s'est sans doute peu à peu écarté d'une relation à la nature qu'on a sans doute eue dans des temps bien anciens, relation à la nature que d'autres peuples ont encore. Et effectivement, il y a d'autres peuples qui ont une relation avec le monde vivant extérieur à l'homme, une relation qui est totalement différente de la nôtre, hein. Une relation qui est une relation de cohabitation totale et de avec des interprétations totalement différentes. Alors effectivement, on peut prêter aux oiseaux, comme vous venez de le dire, je ne sais pas si on peut parler de pouvoir, mais en tout cas d'incarnation, d'êtres disparus, effectivement, on peut voir ça comme ça. Hein. Mais souvent, des peuples, on pense aux peuples d'Amazonie, par exemple, ont un échange avec la nature, avec les animaux, ont un échange d'équivalence, c'est-à-dire que l'oiseau ou le batracien ou le mammifère n'est pas considéré comme un être inférieur. Non, c'est un égal, hein, avec lequel on échange, avec lequel on peut avoir un langage commun, ce qui n'est absolument a plus le cas chez nous. Hein, le rapport qu'on a avec l'animal est un rapport très très distancié et il prend une forme autre. Ce qui n'empêche pas, pour les uns ou pour les autres, d'avoir des sentiments profonds d'harmonie avec la nature. À un moment, on se sent complètement pris par le milieu. On se sent faire partie intégrante de la forêt. On peut se sentir à un moment, des moments privilégiés comme ça, on se sent arbre, on se sent mousse, on se sent oiseau, on se sent cerf, on se sent étoile peut-être, et on se sent complètement. Bon, c'est des sensations qui existent, hein, même chez l'homme occidental. Mais c'est pas des sensations qui sont, je dirais, portées sur la place publique dans le discours habituel. Hein. Ça va transiter par effectivement la poésie, par des romans, par de la musique, pourquoi pas. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est, on a perdu, je pense, ce rapport à la nature qui était un rapport où la nature n'était pas mise à distance. C'est-à-dire qu'on était dedans, hein, on faisait partie de la nature, tout simplement.
Est-ce que vous auriez un moment privilégié passé justement à ces heures d'observation, à nous partager
Oui, il y a un moment que j'apprécie particulièrement. C'est ce moment où le jour tombe, la nuit s'approche, et effectivement, il y a un moment de bascule entre la vie du jour et la vie de la nuit. Donc avec des espèces qui vont se taire tout doucement, peu à peu, et puis d'autres qui vont apparaître. Hein. Donc il y a un changement de lumière, et il y a un changement au niveau de la musicalité du milieu naturel. Et ça, c'est un moment qui est toujours assez émouvant, hein, de voir cette bascule. Ce moment, il existe aussi le matin, quand effectivement c'est l'inverse, hein, où la nuit s'en va et le jour approche. C'est pas la même sensation. Hein. J'ai tendance à être plus dans l'émotion le soir, hein, de ce passage dans la nuit, qui va nous apporter sans doute plus de silence. Et je dis toujours que le silence, c'est la page blanche, hein, où l'oiseau pose sa plume pour nous écrire une chanson. C'est marrant qu'il y a un moment de silence où on sait qu'il se passe quelque chose. Mais ce quelque chose est de l'ordre de l'impalpable. Les oiseaux se sont tus, les oiseaux du jour. Une petite attente et l'oiseau de la nuit va se manifester. Et particulièrement, j'aime beaucoup un oiseau qui apparaît justement au crépuscule, à la belle saison, c'est l'engoulevent. Alors ça, c'est un oiseau migrateur qui nous revient au mois de mai et qui a un chant tellement particulier. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il soit mélodique, hein, mais c'est un chant très particulier. C'est cet oiseau, lui, qui est au mois de mai et au mois de juin, est une sorte de trait d'union entre le moment du jour et le moment de la nuit, hein, puisque c'est un oiseau crépusculaire qui va se mettre en route avec un bruit qui ressemble un peu à un moteur. C'est pour ça que je dis qu'il se met en route. Et voilà. Voilà, là on vient de l'entendre, donc il a ce bruit de crécelle un petit peu là qui est assez étonnant. On dirait un petit peu un moteur, hein, et puis à la fin de ce chant là, il pousse des petits cris, il claque des ailes, voilà, et c'est un oiseau qu'on voit évoluer au moment du crépuscule. On voit une ombre qui circule et c'est un moment vraiment très particulier et assez exceptionnel, voilà. Donc voilà un moment très 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 agréable que j'apprécie beaucoup. Alors il y a d'autres moments, il y a des spectacles assez fabuleux de la nature. Là on va se projeter en montagne, par exemple. Là encore, c'est au mois de mai, au début du mois de mai, c'est la parade des tétralyres, hein, qui est assez fabuleuse, hein, parce que là, on va retrouver des oiseaux, des mâles, qui vont se rassembler sur ce qu'on appelle une arène, hein, donc c'est un lieu, souvent c'est un petit monticule, donc on va voir plusieurs mâles, là, qui vont chanter, et qui vont se défier, parfois combattre, hein, et tous ces oiseaux-là, au lever du jour, alors là on est au lever du jour complètement, puis ils arrivent, en général ils arrivent sur les lieux, il fait encore presque nuit, hein. Et puis ils vont chanter pendant toute cette période où le jour apparaît. Donc on est en montagne, souvent il y a encore de la neige, et puis donc les tétras se mettent à chanter en roucoulant et en poussant leurs cris. Donc là, on vient d'entendre effectivement le chant des tétralyres. Donc on entend ce roucoulement. Hein, les oiseaux sont plumage sombre, noir, la queue en forme de lyre, d'où son nom, avec des jolies plumes blanches, des caroncules au-dessus des yeux, qui sont des gros sourcils rouges. Enfin, voilà un oiseau magnifique. De la grosseur d'une poule à peu près, et tous ces oiseaux se déplacent sur la neige, et puis dans une sorte de danse, cherchant à s'affronter, en tout cas se défiant. Et donc, ils roucoulent. Puis de temps en temps, on les entend chuinter. On les a entendus dans le chant. Là, ils chuintent souvent. Des fois, ils sautent en l'air un petit peu en battant des ailes. Là, c'est un spectacle vraiment assez fabuleux. Hein. Voilà, c'est des choses assez magnifiques. Hein. Donc, on pourrait en citer beaucoup d'autres comme ça. Hein.
Eh bien, je vous propose une petite pause musicale qui parle aussi de moments privilégiés avec les chants d'oiseaux. Et cette fois-ci, on se dirige dans les Philippines, dans l'île Palawan. C'est l'anthropologue Nicole Revel qui est partie là-bas et qui enregistre en 1983... Des personnes du peuple Palawan qui jouent au luth, une transcription du chant de l'oiseau Bikurkur.
Bikurkur. Udah not bata aja ah.
Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus 90.8. Nous sommes en direct à l'apérophonie sur le thème de « Les oiseaux sont-ils musiciens ?» et nous avons l'honneur d'avoir un invité qui s'appelle Jacques Prévost et qui est ornithologue à la LPO. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des activités de la LPO ?
Alors la LPO, c'est une association qui est une vieille dame, hein, puisqu'elle a été créée donc, en 1912, donc ça ne nous rajeunit pas. Elle a été créée pour protéger une espèce d'oiseau qui vivait, enfin, qui vit encore hein, au bord de la mer, en Bretagne, le macareux moine. Petit oiseau fort sympathique et très joli, et qui est un oiseau de marin. Donc cet oiseau était très chassé au début du XXe siècle. Donc une association s'est créée, donc la Ligue pour la protection des oiseaux, et qui avait pour but de défendre cette espèce, et bien sûr donc, de défendre les autres espèces d'oiseaux. Donc la LPO est une association nationale, mais avec des déclinaisons donc locales. Donc nous avons ici la LPO qui départementale, donc la délégation LPO de l'Isère. Cette association donc est située à Grenoble et donc nous avons de nombreux adhérents, nous avons à peu près 1500 adhérents sur le département, nous avons des salariés et notre vocation c'est l'étude et la protection donc des oiseaux. Donc c'est l'objectif de l'association. Donc l'étude, ça veut dire que nous avons beaucoup d'ornithologues sur le terrain qui vont faire des enquêtes, qui font des observations d'oiseaux, bien sûr, qui sont ensuite, toutes ces observations sont stockées dans une base de données, qui est importante, puisque dans la base de données actuelle, nous avons plus de 2,5 millions de données pour l'Isère. Des données qui sont apportées par des centaines d'observateurs qui sont sur le terrain. Et puis de la protection. Alors la protection peut prendre différentes formes, bien sûr. Hein, on peut... L'important étant surtout de protéger les milieux. Et je saute sur l'occasion ici pour parler d'un projet que nous avons ici sur le campus. Hein, donc la LPO avec le campus et avec la communauté, la métro. Donc c'est un projet de constituer de faire du campus un refuge LPO, c'est-à-dire un refuge pour les oiseaux, mais pas que les oiseaux, un refuge pour la biodiversité en général. Et nous avons des actions très précises qui vont avoir lieu tout de suite, je dirais, parce que les actions auront lieu donc jeudi 21, hein, ici sur le campus. Et donc jeudi 21 à 8h30, on attaque un travail sur des mares, c'est-à-dire qu'on va installer des mares sur le campus. Des mares, c'est-à-dire des petits plans d'eau, et qui sont en général des milieux naturels qui sont très favorables à la biodiversité. Hein. Alors, oiseaux, mais aussi batraciens et insectes. Donc ces mares vont être installées, et notamment donc jeudi 21, à 8h30, rendez-vous sur le parking de la rue de la Chimie pour effectivement installer cette mare. Donc il s'agira de la creuser. Donc il y aura un salarié de la LPO qui sera présent, quelques bénévoles et bien sûr tous les étudiants qui seraient libres à ce moment-là, on les convie à venir donner un coup de main, hein, et à venir s'informer de cette action. Donc creusement de la mare. Donc il faudra faire un trou, hein. Après il faudra poser une bâche, la mise en eau, enfin bref, il y a tout un travail autour. Et puis l'après-midi, donc toujours jeudi, hein, jeudi 21, à 13h30, ce sera à l'Arboretum. Alors là, l'Arboretum, il y a déjà une mare qui est existante. Ce sera surtout un travail d'entretien, donc autour de cette mare, du nettoyage un petit peu. C'est une mare qui accueille déjà des grenouilles, qui accueille également des tritons. Voilà, donc... Tout ça, c'est un travail autour de la biodiversité et dans le cadre d'une action à venir qui sera cette fameuse action de mise en refuge du campus pour la biodiversité. Donc voilà les actions que fait l'LPO. Mais l'LPO aussi est tournée vers le public et propose donc toutes sortes d'activités, qui sont des activités de sortie sur le terrain, des activités des conférences, des ateliers, hein, des ateliers où on peut faire construire des nichoirs, des chantiers aussi à l'extérieur, dans la nature, pour provoquer ou pour en tout cas améliorer des milieux naturels qui vont être favorables à la biodiversité. Donc voilà les activités. Et bien sûr, l'activité tournée vers la formation qui est importante. Hein, donc cette formation qui a été mise en place maintenant depuis quelques années, une formation qu'on propose donc au public, une formation sur les oiseaux, une formation qui est une formation très solide puisqu'elle s'étale sur 3 années, avec une vingtaine de cours par an. Donc c'est quelque chose de solide et qui permet à ceux qui s'engagent dans la formation de devenir des experts au bout des 3 années. Donc voilà, je fais un petit tour d'horizon rapide, hein, de nos actions de LPO.
Eh bien, hier, j'étais au premier cours de la PUP, si il me semble, la Petite Université du Piaf.
C'est ça.
Et c'était un cours sur la reconnaissance et l'apprentissage des chants d'oiseaux. Et vous nous avez parlé de moult choses sur les chants d'oiseaux. Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à cette question l'oiseau est-il musicien? C'est la notion de structure, parce qu'on parle souvent d'une structure musicale. On essaye de décliner des caractéristiques musicales dans le son qui seraient par exemple le rythme, l'harmonie, la mélodie. Est-ce que vous voudriez, est-ce qu'on pourrait essayer de déterminer certaines caractéristiques musicales des chants d'oiseaux?
Ça va être très difficile parce que on dit les oiseaux. Mais le problème, c'est que il y a, on a 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Déjà, pour commencer, on peut faire des classifications, comme je l'ai fait au début, en disant qu'il y a des oiseaux chanteurs, puis d'autres qui sont un peu moins chanteurs. Bon, bref, il y a des oiseaux qui sont très musicaux. Hein. On a vu quelques exemples. Et puis, on a écouté l'engoulevent tout à l'heure. On est déjà un peu moins dans la musique. Hein. On est dans quelque chose de plus mécanique. Hein. Donc, c'est difficile d'effectivement dire. Alors, les oiseaux, la structure du chant. Alors, la structure du chant, on a, selon les espèces, on va avoir des structures qui sont vraiment très, très différentes. Il y a des oiseaux qui ont des chants très structurés. On a écouté un pinson tout à l'heure. Bon, ben, le pinson, il a un chant qui est très structuré. Hein. C'est-à-dire que le pinson qui chante en début de printemps, bon, ben, il a son chant. Il chante, vous venez 15 jours plus tard, vous l'écoutez, ce même pinson, il a toujours le même chant, hein, c'est toujours la même chose, il est toujours construit de la même manière. Hein. Alors, bien sûr, il y a des différences entre individus. Hein. Le pinson du campus, qui chante sur le campus, il chante certainement pas de la même manière tout à fait que le pinson qui chante en chartreuse. Il peut y avoir une différence, et peut-être encore une différence plus forte avec le pinson qui va chanter en Hongrie ou en Espagne. Alors, d'une manière encore plus fine, on pourrait dire que entre deux pinsons qui chantent sur le campus, il y a des différences. Si on, à l'oreille, on va peut-être avoir du mal à faire la différence, mais si on transcrit le chant grâce à des moyens modernes maintenant qui nous permettent d'obtenir des sonogrammes qui sont la reproduction du chant au niveau graphique, on verra des différences. On dira, tiens, ce pinson, il ne chante pas tout à fait comme celui-ci. Pourtant, ils sont au même endroit. Mais un ornithologue, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en Hongrie ou qu'il soit sur le campus, il entend un pinson, il reconnaît un pinson tout de suite parce qu'il y a une structure, il y a quelque chose qui est construite dans l'espèce, hein, et qui permet au pinson de produire un chant reconnaissable entre tous. Alors ça, c'est des chants qui sont très structurés. Alors il y a des chants structurés complexes. Le pinson, on va dire qu'il n'est pas très complexe, mais enfin. Et puis il y a des chants qui sont structurés, qui sont très 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 simples, hein, qui sont des chants vraiment. Je prends l'exemple du Pouillot Véloce, par exemple. Le Pouillot Véloce, il a un chant qui est vraiment d'une simplicité enfantine. Tout le monde peut le reconnaître. Hein. Il a deux trois notes et puis il les égrène comme ça. Hein. Donc mais c'est toujours le même chant. C'est-à-dire que c'est structuré. C'est toujours la même chose qui va advenir. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est un chant très simple, hein, c'est chip-chap, chip-chap, chip-chap. D'ailleurs, les Anglais l'appellent le chip-chaf, les Allemands le zip-zalp, mais nous, on l'appelle le Pouillot Véloce. Voilà, et c'est un petit oiseau, donc, qui passe très inaperçu. Il a des couleurs qui sont très peu visibles, hein, il se confond dans le feuillage. Donc voilà. Donc, mais c'est un chant structuré. Et puis à côté de ça, il y a des chants qui vont être des chants qui sont moins structurés, qui vont être un espèce de babil, hein, qui se déroule comme un fil, dans lequel on ne ressent pas de construction. Hein. C'est un enchaînement de notes qui va sans construction. Par exemple, ben on l'a vu tout à l'heure, on l'a écouté, hein, c'était la rousse Rocheverderolle, donc on va peut-être pas la reprendre, mais voilà, c'est l'oiseau dévide son chant d'une manière un petit peu chaotique, hein, d'une manière assez un petit peu aléatoire, hein. Comme c'est un oiseau qui prend des chants, qui fait des imitations. Voilà, une imitation d'une espèce, puis son propre chant, elle, puis une imitation d'une autre espèce. Mais tout ça est moins construit. Puis à côté de ça, il y a des oiseaux qui ont alors vraiment des chants qui sont complètement pas mélodiques, hein, dans lesquels on va avoir du mal à aller chercher, je veux dire, des sources de création, hein, musicale. Hein. On peut prendre l'exemple, par exemple, du lagopède. Hein. Le lagopède, c'est vraiment quelque chose de très archaïque comme chant. Et puis, voilà, on peut l'écouter. Hein. Voilà, donc là, on a affaire à un oiseau qui vit plutôt en haute montagne, hein, il vit près du rocher, près de la neige. C'est un oiseau qui est très beau, hein, c'est un oiseau de la famille des Galliformes, c'est-à-dire que ça ressemble à la taille d'une poule à peu près. Et c'est un oiseau qui a des plumages différents selon les saisons, hein, en hiver, l'oiseau est tout blanc. Et il reprend un plumage couleur de feuillage ou de couleur de végétation à la belle saison. Cet oiseau, il a ce chant, qui est quand même un chant très, très rudimentaire. Quand on ne le connaît pas, on est toujours étonné d'entendre ce cri qui sort de nulle part, puisqu'on est en montagne et l'oiseau est mimétique, donc on ne le voit pas. Il est caché sur les rochers, enfin bref. C'est toujours assez étonnant d'entendre ce... Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas dans la mélodie, hein, on est loin de l'oiseau chanteur.
Oui, c'est vrai que la mélodie, dans la conception de la musique occidentale classique, c'est un son dont on peut clairement distinguer une certaine fréquence, la fréquence fondamentale, qu'on va qualifier de pure. Et c'est vrai que chaque oiseau, on n'est pas à même de distinguer un son flûté, une note à chaque production sonore de chaque oiseau. Mais cette notion de la mélodie, elle a été vraiment complètement... elle a beaucoup évolué en fait dans la musique à partir du XXe siècle, à partir de la musique contemporaine. Et donc, maintenant, moi, par exemple, je suis percussionniste. Et en entendant ce lagopède, j'entends de la musique parce que moi, je peux très bien faire des roulements de caisse claire et les considérer comme musicaux. Ou alors, on peut écouter du noise sans clairement distinguer une fréquence particulière, distinguable. Et l'écouter comme musical. Donc voilà, c'est une...
oui, mais tout à fait. Je pense que... Comment est née la musique chez l'homme? Voilà des gens qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années, qui ont écouté les bruits de la nature, qui ont écouté le bruit du vent, qu'ont écouté le bruit du ressac sur les bords de mer, qu'ont écouté le bruit de l'orage, et puis, bien sûr, le chant des oiseaux, hein, qui était bien avant l'homme, hein, puisque les oiseaux chanteurs, ça nous ramène à des millions d'années. Donc, ils ont entendu le chant des oiseaux, ils ont peut-être essayé de l'imiter, hein, le jour où ils ont soufflé dans un tuyau, enfin dans une branche d'arbre creusée, ils ont trouvé que ça ressemblait au chant des oiseaux. Comment est née la musique? Peut-être comme ça, en écoutant les chants des oiseaux. Et puis, peu à peu, la musique s'est construite, telle que nous la connaissons maintenant. Alors, maintenant, c'est un petit peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on dira que tel oiseau est mélodique, parce qu'on va le comparer à nos productions musicales. Hein, donc on va trouver que la mélodie de tel oiseau effectivement colle à peu près à la musique de Mozart ou d'un autre, hein, d'un autre compositeur. Mais effectivement, je pense que les premiers hommes qui ont commencé à faire de la musique se sont pas posé cette question du tout. Hein. Ils ont utilisé le chant des oiseaux, que ce soit des oiseaux chanteurs ou des lagopèdes qui poussaient ces cris, et ça leur donnait sans doute de l'imagination, de la matière pour construire quelque chose de musical, hein, certainement. Oui, oui.
Et bah, du coup, je vous propose d'écouter la musique de M. Christophe Chassol qui, entre guillemets, harmonise le monde. Il va écouter, donc ici c'est un morceau qui s'appelle Ornithologie 2, et il écoute les chants d'oiseaux qu'il va retranscrire en musique, et ce sont des oiseaux de Martinique qu'on va écouter ici.
Thank you.
Vous écoutez Radio Campus Grenoble 90.8. C'est la fin de notre émission sur les oiseaux sont-ils musiciens. Il est temps pour nous de se quitter et de remercier infiniment Jacques Prévost d'être venu et Bertrand à la technique. Je voulais juste tenir à revenir sur un concert qui s'est passé la semaine dernière où des compositeurs improvisateurs qui font un mélange de jazz et de musique contemporaine sont venus à la scène de l'Hexagone à Grenoble, à Mélan, pour nous proposer un concert autour des chants d'oiseaux. Et par exemple, il y avait notamment Bernard Faure, qui est un compositeur qui utilise des chants d'oiseaux en musique acousmatique. Et c'était formidable, on a appris plein de choses sur les oiseaux, on a écouté de multiples manières d'utiliser les chants d'oiseaux dans la musique. Et pour se dire au revoir, je vous propose d'écouter une petite composition de Pascal Bern, le contrebassiste, qui s'appelle Tichotrome Trotz. Et cette émission va être poursuivie d'une autre émission où nous allons plus entièrement la consacrer sur l'utilisation des sons des oiseaux dans la musique. Et elle va se dérouler le mercredi 18 octobre à l'apérophonie entre 18h et 19h. Donc nous allons entendre la réponse. C'est une musique de Pascal Bern qui s'appelle... 11.
Mmh. Ça, c'est l'avantage de la technique, c'est que la piste ne veut pas être lue. Alors, on va voir si ça marche. L'émission, la prochaine, ce sera quand ?
Mercredi 18 décembre.
Voilà, parce que 18 octobre, ça me paraissait...
J'ai dit 18 octobre.
Ça me paraissait... Là, elle planifie très, très loin.
2020, oui. Ouais,
préparez-vous, alors, notez dans les agendas. Hein, parce que moi, je suis très organisé comme fille. Non, malheureusement, je pense qu'elle ne va pas vouloir se dire, parce que c'est un format qui n'a pas l'air très, très reconnu. Dommage, on l'écoutera la prochaine fois.
Alors. On l'écoutera la prochaine fois, dans ce cas-là.
Comment on peut retrouver les informations concernant la LPO ?
Alors, il suffit effectivement d'aller sur on va trouver facilement le site internet de l'LPO. Hein. Vous allez taper LPO Isère, hein, et vous allez tout de suite tomber sur notre site avec toutes les informations concernant les activités de l'LPO, les activités que j'ai un peu décrites tout à l'heure, les conférences, les formations, les sorties, et puis des activités diverses et variées. Hein. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour... Il y a un accueil, bien sûr. On peut monter nous voir à le bureau de la LPO et donc à la Maison de la Nature et de l'Environnement, 5 Place Birakem. Nous sommes au deuxième étage. Il y a un accueil, on peut y aller. On peut téléphoner aussi. Hein. Le téléphone, c'est le 04 76 51 78 03. Et...
On mettra évidemment toutes ces références sur le texte accompagnant le podcast de cette émission que les gens pourront réécouter via le site campusgrenoble.org. Bon, bah, je crois que décidément, il n'en veut pas, malheureusement. On va devoir se dire au revoir, parce qu'effectivement, là, il va y avoir une émission en anglais qui s'appelle English Talk Radio. Et si vous écoutez la rediffusion jeudi matin, il y aura la suite des programmes de Campus Grenoble. Donc, à très bientôt.
À très bientôt.
Et merci d'être venu, c'était passionnant.
Bonsoir.